Bonjour, c'est Isabelle Langer. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aujourd'hui au jour où Yannick Noah a fait chavirer le cœur des Français. Un moment à part, à jamais gravé dans les mémoires. Et c'était comme ça, ce fameux dimanche 5 juin 1983 sur RTL.
Yannick Noah qui se concentre très longuement avant de servir, qui fait rebondir la balle, qui va servir maintenant. La première balle de Noah est bonne. Retour de Vilander. Elle est faite. Il a gagné. Yannick a gagné. Retour dehors de Vats Vilander. Yannick Noah qui s'est jeté à genoux sur le court.
17h35 sur le central de Roland-Garros. Pour la première fois depuis 37 ans, un Français remporte la finale des Internationaux de France. Roland-Garros en délire et Yannick Noah au paradis au micro de Michel Cohen-Solal.
Yannick, on est en direct sur l'antenne. Quelques mots, Yannick.
Je suis très content, ça a été très dur. J'ai du mal à y croire, là. J'ai du mal à réaliser. J'ai besoin de reprendre un peu mes esprits.
Dans ce focus, nous allons revenir sur cette finale d'anthologie, ce jour qui fait partie à jamais des grands moments du sport français. Parce que chaque année, à la même époque, c'est-à-dire à chaque Roland-Garros, c'est la même rengaine, la même phrase qui revient. Le tennis français attend toujours un successeur à Yannick Noah et cela fait 40 ans que ça dure. Pour en parler avec nous, Jean-Paul Lotte, la voix du tennis à la télévision, celle qui nous berce depuis des décennies, consultant hors pair, mais qui avait lâché exceptionnellement le micro ce 5 juin 1983. Bonjour Jean-Paul Lotte.
Bonjour Isabelle.
Des beaux souvenirs ?
Oui, plus que beaux, des souvenirs qui, lorsque on entend les voix qui rappellent la balle de match et puis celle, la voix de Yannick qui ne réalise pas encore, ça fait quand même remonter pas mal d'émotions, c'est sûr.
La voix, c'était celle de Fabrice Balédan sur RTL. Avec nous également Jean Couvercel, le fondateur du célèbre Tennis Magazine. Bonjour Jean.
Bonjour Isabelle.
Beau souvenir également cette finale, j'imagine.
Formidable souvenir puisqu'on attendait ça, on le sentait venir. En plus, Yannick était un collaborateur de Tennis Magazine, donc c'était formidable de le voir là. Et ça n'a pas été une surprise, mais ça a été un moment d'émotion extraordinaire.
Exactement. Messieurs, vous avez eu le privilège d'assister au plus près à ce sacre de Yannick Noah. Je dis au plus près car vous avez vécu l'avant, le pendant, l'après, avec la fameuse soirée, notamment dans sa maison de Nainville-les-Roches. Mais nous en reparlerons plus tard. Le contexte tout d'abord. On est en 1983. On peut dire que Yannick Noah est alors l'une des trois grandes stars du sport français avec Michel Platini, Alain Prost et Bernard Hinault. Quand il débarque à Roland-Garros, Noah pointe au 6e rang mondial. Il vient de remporter les tournois de Madrid et de Hambourg. Hambourg où il bat d'ailleurs en demi-finale un certain Mats Wilander. Il fait clairement partie des favoris. Et pourtant, quelques semaines avant, Jean-Paul Lotte, le numéro 1 tricolore, n'était pas forcément au mieux de sa forme.
Le problème qu'on a eu d'une manière assez répétitive avec Yannick, c'est qu'il y a eu des moments de grande forme et des moments de moins bonne forme. Parce que malheureusement pour Yann, il était quand même assez sujet à des blessures. Alors, la raison pour laquelle il se les accumulait, on peut en rediscuter, mais toujours est-il qu'il en a eu pas mal.
Et on parlera à ce moment-là, pas d'hygiène de vie, c'est ça ?
Il y a eu des hauts et des bas, et il est exact que quelques mois auparavant, c'était pas la très grande forme. Mais il n'en reste pas moins que lorsque j'ai décidé de mettre Agel à sa disposition en permanence, parce qu'on fonctionnait par équipe à l'époque. Oui. Fédération n'était pas riche au point de pouvoir donner un entraîneur à chaque joueur. Mais là, on avait un joueur et qu'il n'était plus question de tergiverser. Donc j'ai décidé de mettre Agel à disposition de Noah. Et tous les deux ont réussi à se décider pour dire « Bon, ben, allez, on fait ce qu'il faut pour essayer de gagner ce tournoi. »
Jean Couvercel, à Monte-Carlo notamment, hein, juste avant Roland-Garros, il y a un quart de finale qu'il perd contre Manuel Orantes en 3-7. Le tournoi est d'ailleurs remporté par Wilander et c'est à ce moment-là qu'il y a un petit peu le déclic aussi. Hein.
Oui, parce que Orantes a été un très grand joueur, mais il était quand même déjà sur le déclin. Et que Yannick, qui déjà à ce moment-là était quand même un des meilleurs joueurs du monde, perdre contre Orantes, une manière en plus un petit peu transparente. C'était le signal d'alerte et je pense qu'Agel a tout de suite dit bon, maintenant il faut y aller. Et effectivement, cette défaite a provoqué un déclic formidable parce qu'il s'est préparé comme jamais sur une période d'avril, je dirais, au mois de un mois plus tard, ouais. Avec notamment les tournois de Lisbonne, Madrid Et Hambourg, vous disiez qu'il a battu Wilander, qui restait Wilander sur 43 victoires consécutives sur terre battue. Donc c'est une fin de série pour Wilander, et que Yannick a été tout le temps grand, a été en, sur la croix, en, en montant régulièrement au fil des semaines, avec une forme vraiment étincelante, physique, etc. Et puis en plus, avant le tournoi, il s'est préparé aussi, il est resté à Nainville tout le temps.
On va y revenir effectivement dans un instant.
Et donc, en tout cas, c'est pas vraiment une surprise évidemment, parce qu'il s'était bien préparé, mais s'il n'y avait pas eu cette défaite de Monte-Carlo, peut-être n'aurait-il pas gagné Roland-Garros derrière.
Et justement, Patrice Hagelauer nous raconte Monte-Carlo, comment il a un petit peu remis les pendules à l'heure.
Je voulais que vraiment Yannick refixe ses priorités. Qu'est-ce qui était vraiment essentiel pour lui? Est-ce que vraiment Roland-Garros était toujours son objectif principal? Et donc on a eu une discussion qui était une discussion importante, où j'ai vraiment au fil de la discussion senti que Yannick se remotivait, repartait dans ce rêve qui était de gagner Roland-Garros, et puis qu'il avait vraiment l'intention de s'en donner les moyens.
Il s'en donne les moyens. Noah gagne donc à Madrid, à Hambourg. Il prépare Roland-Garros en mission commando, presque, avec Patrice Hagelauer. Jean Pelotte, ils vivent quasiment en vase clos à ce moment-là.
C'est pas en mission commando presque, c'est en mission commando totale. Moi, je les ai jamais vus pendant cette période à l'entraînement. J'ai dit à Agel, puisque vous avez décidé de vous enfermer tous les deux, vous n'avez besoin de personne, simplement, j'aimerais bien que tu me tiennes au courant de ce qui se passe.
On rappelle que vous étiez le capitaine de Coupe Davis.
Oui, j'étais capitaine et directeur technique à l'époque, et donc il n'était pas question d'interférer sur cette bulle qu'il s'était créée, et Agel me disait, mais tu n'imagines pas la manière dont il s'investit. Je n'ai jamais vu ça. On a vu quelques joueurs s'entraîner, on en a entraîné quelques-uns, il me dit « j'ai jamais vu ça ». Et Jeep, je ne pense pas que ce tournoi va lui échapper, parce qu'il est comme un lion, et surtout, il ne se disperse pas, on ne voit personne. Donc ça a été 2 mois et demi d'entraînement entre eux deux, un peu de compétition au passage, extraordinairement bien préparé, et le résultat final, eh ben on y reviendra quelquefois, a été ce que nous avons vécu.
Oui, quand il fait cette mission commando, Jean Couvercel, ils sont effectivement en vase clos. Agel va dans un petit club, il demande un cours, il protège avec des bâches. Ça joue tout le temps, toute la journée, et ça se prépare à fond.
Oui, il a commencé d'ailleurs pendant les tournois qui ont précédé. Il allait courir tous les jours après ses matchs. En solitaire, il aimait ça, et il a raconté que c'était vraiment là où il pensait à fond à Roland-Garros, et c'était une préparation à la physique et mentale totale. Avant cette période où il s'est effectivement, il a vécu avec son père, Zach, qui est venu du Cameroun, il a passé toutes les 3 semaines, je dirais, à Nainville-les-Roches avec Yannick, où il n'y avait personne d'autre, sauf de temps en temps des gens qui venaient le visiter, sa maman, évidemment, ses sœurs, etc. Mais quelques amis parfois, ils ont fait quelques dîners à Milly-la-Forêt de temps en temps. Mais Zachary, qui a tenu un carnet de bord pour Tennis Magazine tous les jours, donc raconte en détail comment s'est passée cette quinzaine ou ces 3 semaines. Et c'est extraordinaire de voir comment ils étaient focus total sur Roland-Garros. Il n'y avait absolument aucune... Et Yannick raconte qu'il ne voulait absolument pas rester en région à Paris, parce qu'il savait que même s'il se protégeait, ça ne serait pas l'équivalent de cet isolement qu'il avait pu trouver.
Toujours Patrice Hagelauer qui raconte qu'après 4 heures, 5 heures des fois d'entraînement tennis, quand il rentrait à Nainville, voilà ce que faisait Noah, il allait courir.
Yannick partait courir avec ses chiens, dans la nature, complètement. Donc là, je ne le suivais pas parce qu'il allait trop vite, bien évidemment, mais il partait courir et c'était vraiment formidable, parce qu'après 4 heures, des fois plus, d'entraînement vraiment dur, il courait avec ses chiens, il revenait après, dans une petite salle qu'il avait aménagée dans une grange chez lui, c'était une salle de gym, il faisait ses exercices, il faisait ses abdos, il faisait tout ça, donc ça donnait des journées vraiment de 6 heures ou plus d'entraînement, et il n'y avait que ça, quoi. Il était complètement dans son élément, c'était très dur, un vrai régal en même temps. À la suite de ces 8 jours d'entraînement, il s'est retrouvé ici à Roland-Garros, pendant la journée Béniberté, il a joué contre Mats Wilander. Et puis à la suite de ça, il y a une conférence de presse, et c'est le seul moment où moi j'ai eu l'occasion de dire quelque chose que je dis très très rarement. Je dis, écoutez, celui qui va battre Yannick, il va falloir qu'il soit fort. Et je sentais véritablement que non seulement il y croyait, mais il était prêt. Il était vraiment prêt.
C'est ce que vous disiez il y a quelques secondes, Jean-Paul Lotte. Patrice Hagelauer était persuadé qu'il allait aller au bout de cette aventure.
Déjà, Angèle est sortie de cette période dans une forme physique que je ne lui avais jamais vue. Il était aussi affûté que Yann. Non, ce dont il faut se souvenir quand même, d'une manière précise, à propos de cette époque, c'est que Yann était une vedette. Très très importante, hein. Je veux dire, on pouvait pas faire deux pas sans qu'on ne l'arrête, qu'on lui pose des questions, qu'on aille l'embrasser, enfin bref. Et il n'aimait pas trop ça, Yann. C'est dans ce contexte-là quelqu'un quand même de relativement simple. Et ça l'a toujours perturbé, cet excès de manifestation à son égard. Donc la décision de s'isoler a été très importante et a sûrement, après les déclics qui s'étaient produits, joué d'une manière importante. Et ce que moi je retiens en réécoutant Angèle me dit « Jeep, personne ne le battra ». J'ai jamais vu un type en vouloir autant et être dans une condition physique pareille. Je dis, je te crois sur parole, on va attendre que ça arrive.
Eh bien, le tournoi démarre. Premier tour contre le Suédois Anders Järryd. Le score, 6-1, 6-0, 6-2. Deuxième contre le Paraguayen Victor Pecci. Victoire, 7-5, 7-6, 6-2. Troisième contre l'Américain Dupré, 7-5, 7-6, 6-2. Huitième contre l'Australien Alexander, 6-2, 7-6, 6-1. Et puis le quart contre Lendl, 4-7. C'est le seul joueur d'ailleurs qui lui prendra un set dans ce tournoi. 7-6, 6-2, 5-7, 6-0. Sans conteste, le match le plus difficile peut-être pour lui. Il aimait jouer Lendl, hein.
Il l'a battu souvent de fois. Hein. Lendl, ça a été deux frères ennemis, parce qu'ils ont commencé ensemble en junior. Il y a déjà eu des matchs épiques en galéar. Enfin, sur le court, ils ne s'aimaient pas beaucoup, l'un et l'autre. Hein. Je ne sais pas comment ça se passait entre eux en dehors du court, mais ça ne devait pas être un amour fou. C'est vrai que ce match contre Lendl a compté pour la victoire finale, parce que le fait, je crois qu'il lui a mis 6-1 ou 6-0 au dernier set.
6-0, oui, dans le
6-0,
dernier set.
6-0, voilà, j'ai le souvenir d'un set qu'il a gagné relativement facilement. Il a vraiment écrasé Lendl, et ça a été très important, parce qu'il faut juste se souvenir d'une chose, c'est que quand il jouait contre Ivan était très... quand il faisait un point, il le toisait, Yannick.
Et ça devait bien l'énerver.
Yannick s'était souvenu de certains matchs, et en particulier une fois en Coupe Davis, j'ai dit, mais tu vois pas qu'il saute ta gueule, ce type, il serait temps maintenant de réagir. Et là, on a senti sur ce dernier set qu'il voulait lui mettre une tôle. Il n'était pas question qu'il laisse passer sa chance, et il la lui a mise. Et le fait d'avoir gagné ce match difficile d'une manière aussi nette sur la fin a sûrement contribué à une prise de confiance supplémentaire encore par rapport à ce qu'il attendait.
Et justement, dans le clan des journalistes, à ce moment-là, vous vous dites, wow, la voix a l'air royale. Derrière, c'est Christophe Roger Vasselin.
Oui, mais Isabelle, sur le match contre Lendl, il faut se rappeler que Yannick a mené 2-7, donc 0, 5-2 au troisième, deux balles de match que Lendl sauve et qui gagne 5 jeux de suite. Et donc, on attaque le dernier set, et là, il fait 6-0, parce qu'il remet tout ça en place. Mais il a quand même eu un petit moment de tremblement. Il a fallu surmonter ça. Et ce qu'on sait aussi, c'est que Lendl, à l'époque, n'avait pas encore gagné un tournoi du Grand Chelem. Il avait une image de loser. Et il s'est largement rattrapé après, puisqu'il a gagné l'année d'après Roland-Garros contre McEnroe, tout le monde le sait. Mais cette année-là, c'était pas encore le Lendl qu'on a connu. Et puis, sur terre battue, paradoxalement, à l'époque, c'était pas non plus sa meilleure surface. Mais enfin, effectivement, une fois qu'il a réussi, malgré ce retour de Lendl, à lui mettre 6-0 au dernier, la confiance a été absolue, évidemment. Et après, effectivement, comme vous disiez, il a rencontré, donc, à la surprise générale,
Christophe Roger Vasselin,
qui avait battu Connors.
Il avait laissé des plumes en battant Connors aussi.
Il avait laissé des plumes. De toute façon, Christophe était quand même... C'était un excellent joueur, mais voilà. Mais c'est surtout Connors qui avait laissé des plumes, je dirais. Ouais. Puisqu'il s'était, avec son coup droit qu'il n'arrivait plus à faire, il avait un coup droit relativement faible, surtout sur la terre battue, surtout sur les balles un petit peu basses que Christophe lui a distillées. Et donc, c'est plus Connors qui a perdu, mais Christophe a joué remarquablement. Mais évidemment, ça ouvrait encore un peu plus la porte, tout, malgré le respect qui lui est dû, pour Yannick derrière.
Qu'il l'emporte 6-3, 6-0, 6-0. L'autre demi-finale oppose le tenant du titre, donc Mats Wilander à l'Espagnol Higueras. Wilander l'emporte en 4-7. Et puis à la veille de la finale, l'équipe titre 50 millions de noix pour dire que tous les Français étaient derrière lui. C'était le cas ?
Tout à fait, bien entendu. Aucun Français n'avait gagné Roland-Garros depuis 1946. Donc ça faisait 37 ans. Oui. Et là, la porte était toute ouverte. Cela dit, c'était Villander en face, c'est-à-dire le numéro 1 à l'époque, sur terre battue en tout cas, même si Yannick l'avait battu à Hambourg. Donc c'était un obstacle, l'obstacle le plus redoutable, bien évidemment.
D'ailleurs, comme pour la victoire des Bleus en 98, 40 ans après ce 5 juin 83, personne n'a oublié ce qu'il faisait ce jour-là. Bon, vous, vous savez où vous étiez. Moi, j'étais petite, mes parents m'avaient privé, ils m'avaient emmené au zoo de la Flèche. Je leur en veux encore toujours, 40 ans après. Il fait beau ce jour-là, porte d'Auteuil, hein, Jean-Paul Lotte. À l'époque, on le rappelle, vous êtes donc le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis et vous commentez également pour TF1. Mais vous décidez de lâcher le micro.
Oui, parce que franchement, j'aimais bien commenter les matchs. En général, quand les Français jouaient, j'évitais de me mettre dans la cabine parce que on était quand même beaucoup avec Agel sur les circuits. C'était discutable, quoi, un capitaine d'équipe de France qui, lorsqu'il y a des matchs importants, commande derrière un micro alors que les choses se passent sur le court. Donc Philippe Châtrier m'avait accordé une petite loge juste en dessous de la tribune présidentielle que j'avais annexée pour la direction technique. Et il n'était pas question, je les avais prévenus à la une, c'était la une que je commenterais ce match. Et je reviens juste une seconde sur ce qu'on a dit précédemment, c'est que ce match contre Vasselin, où il a mis une tôle 6-0, 6-0, les deux derniers sets à Vasselin, l'a un peu perturbé, Yannick. Et on était un peu embêtés parce que il n'a pas aimé mettre cette raclée à Vasselin, qui avait annihilé totalement Connors avec une tactique merveilleuse en lui chipant systématiquement sur le coup droit où l'autre ne savait pas jouer. Et il avait eu un peu de mal à digérer cette victoire en disant quand même, l'autre, il arrive à ce moment-là, après avoir battu Connors, j'étais quasiment obligé de lui laisser deux jeux. Ça l'avait un peu perturbé, mais ça a passé, quoi. Et donc on arrive le jour de la finale, voilà.
Jean Couvercel, vous êtes où, vous, en tribune ?
Ben moi, je suis au deuxième rang de la tribune de presse, qui était à cette époque-là à côté de la tribune présidentielle, d'ailleurs.
C'était bien placé, c'était au bord du cours, quasiment.
Ah, tout près du cours, et effectivement, et bon, on vit ces moments-là. On pense déjà au journal qu'on va faire, enfin au papier qu'on va faire, en l'occurrence, pour ce qui me concerne, le numéro qui va devenir un numéro qui fait partie de l'histoire de la presse, enfin magazine en tout cas, du tennis, et du tennis français. Et en même temps, on a la crainte, évidemment, que ça se passe pas bien, puisque Villander est un adversaire, je dis, redoutable, qui physiquement peut tenir 5 heures sans problème, et on pouvait se poser la question jusqu'où, combien de temps peut durer une finale comme celle-là.
Vous êtes assis, Jean-Paul Lotte, à côté de Patrice Agelower. L'ambiance en tribune, elle est comment ? Il fait chaud, hein, quand même, ce jour-là. On se souvient des bobs que les gens portent en tribune.
J'ai vraiment un souvenir très spécial de cette affaire, parce qu'on est dans notre petite bulle, nous aussi. Il fait chaud, le stade est en ébullition, mais c'est un volcan qui n'est pas encore en éruption. On sent une espèce de chaleur, de ferveur, quelque chose, mais ça n'explose pas encore. Ça commence à exploser quand Yannick fait les premiers smashs où il monte à 1m50 au-dessus du sol, qu'il fait ses premières volées, etc. Mais pour ce qui me concerne, je veux dire, on jouait très gros. Yannick jouait très gros, mais on jouait gros parce que je m'étais quand même engagé vis-à-vis de Philippe Châtrier en particulier.
Qui était le président de la fédération.
Qui était président à ramener pendant mon exercice de directeur technique la Coupe Davis et au moins un tournoi du Grand Chelem. C'était le contrat qu'on avait. Et je me suis dit, s'il ne gagne pas ce tournoi, comme on s'est fait liquider en Coupe Davis, en finale, ben je vais avoir raté mon affaire et peut-être que ça va être la sortie. Donc j'étais un peu tendu pendant tout le match pour différentes raisons. Mais il jouait quand même si bien au tennis et tactiquement, c'est ça qui était merveilleux. C'était exactement ce qu'il fallait faire pour venir à bout de Villander qui était, comme le disait Jean il y a quelques secondes, le meilleur sur terre battue à l'époque.
Tout le clan Noah est là également, sa mère Marie-Claire, son père Zachary, ils sont dans une petite loge au fond du cours. Et puis beaucoup de familles et des copains également dans la tribune des joueurs. Christophe Guibaud, son cousin, qui a 2 mois de plus que lui, assistait d'ailleurs à son premier match à Roland-Garros.
Moi je le trouvais grand, j'étais sûr qu'il allait gagner. Quoi. Ce match, c'est peut-être pour plein de gens, pour moi il a duré 2 minutes. Tout le monde a retenu son souffle, il y avait une électricité dans l'air incroyable. Et je sais pas, je le regardais... Et ouais, je me disais, il ne peut pas perdre contre Villander.
Quand Noah entre sur le court, il est acclamé comme une rockstar. Vous le trouvez comment ? Son look, les dreadlocks ?
Eh bien, on le trouve comme les autres jours, puisqu'il avait adopté cette coiffure peu de temps auparavant, quand il était allé hier au Cameroun, en fin 82. Et donc, il était tout à fait... Moi, je l'ai senti tout à fait prêt au combat, prêt au combat et confiant. Et d'ailleurs, il l'a montré tout de suite par la manière dont il a attaqué ce match. Il avait l'air très agressif, prenant possession du filet, où il tenait une place phénoménale. Et il fallait vraiment avoir en face un passing particulièrement affûté pour résister à ça. Jander l'avait en principe, mais là, il était un peu débordé par toute cette fureur de Yannick.
La première manche est d'ailleurs maîtrisée, hein, 6-2. Le combat, en fait, se lance vraiment dans le deuxième, 7-5. Il agresse Wilander constamment, il impose sa présence physique. Il sait qu'il ne doit pas rentrer dans le jeu du Suédois, Jean-Paul Loth.
C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, parce qu'il faut qu'il rentre quand même un peu dans le jeu du Suédois, parce que sur terre battue, on ne peut pas servir volleyer, faire un retour de service, se précipiter au filet à chaque fois. Il faut accepter un petit peu l'échange. Or, il avait beaucoup travaillé, en particulier le lift en coup droit et en revers, Yann, même s'il avait un bon revers coupé. Et ce lift de coup droit en particulier, qu'il montait très loin dans le fond du court, lui permettait de venir d'une manière relativement confortable au filet. Alors que il aurait joué Wilander en une frappe ou deux frappes pour se précipiter, l'autre l'aurait transversé. Donc il y avait cette petite patience nécessaire pour se préparer le point, pour qu'il puisse faire sa cuisine et ensuite venir au filet. Alors à chaque fois qu'il venait au filet, bien sûr ce stade qui d'abord était en une ébullition contrôlée, il a fini par exploser, et à chaque fois qu'il y avait un point, vous aviez la lave qui sortait du volcan, tout ça s'est explosé merveilleusement. Quoi.
Le troisième set, on en a parlé en dehors de ce studio, Jean Couvercel, ça se joue au tie-break, il y a une vraie tension dans ce troisième set. Hein.
Mais d'autant plus que Yannick...
Il est atteint physiquement à ce moment-là, non ? Un petit peu.
On peut craindre la survenue de crampes, parce qu'il y avait des petits signes qui l'indiquaient, mais surtout il avait servi pour le match, pour le titre, donc, à 6-5. Donc il perd son service, et là on peut se dire tout peut basculer, parce que quand on sert pour le titre et qu'on ne gagne pas son service, alors qu'il a quand même rarement perdu dans ce match, c'est un moment clé, qui aurait pu être clé. Mais il a tout de suite repris, un peu comme contre Lendl en quart, quand il a attaqué le quatrième set, là il a attaqué le tie-break en futur vainqueur, en patron, si je puis dire. Et donc on sait comment ça s'est passé au film, et à chaque point évidemment. Chaque point est irrespirable dans ces cas-là, parce que tout peut basculer tellement vite, et qu'on voit que le titre de Roland-Garros, quand même, qui n'a pas été gagné depuis si longtemps, est à portée de main, et que ça va être un moment inoubliable pour le tennis français, pour Yannick lui-même en particulier. Forcément, c'est un moment où on a des frissons partout, forcément.
Vous aviez des frissons, vous avez, avec AJ Lowar, à ce moment-là, vous vous dites quoi quand il sert pour le match la première fois ?
On est relativement calme, d'apparence. on ne se manifeste pas beaucoup, hein, parce que AJ l'avait décrété, et d'une manière très juste, qu'on n'allait pas se lever à chaque point gagné pour brandir le point comme ça se fait aujourd'hui d'une manière désastreuse. Donc on était relativement calme, mais ce que Jean vient de dire est important, parce que on était persuadé qu'il allait gagner, sauf que ce soit Lendl ou Wilander, c'est deux des meilleurs joueurs du monde, dont un qui est le meilleur, et que gagner en 3-7 contre un gaillard de 7-30 dans une finale de Grand Chelem, c'est quand même pas tous les jours que ça arrive. Et on se dit, si jamais le Suédois arrive à le coiffer sur le troisième set, il va falloir repartir au combat. Et effectivement, les choses peuvent encore tourner. Mais impassible et confiant, on donnait l'impression à Yannick qu'il n'y avait strictement rien à craindre, alors que on n'était pas tellement à l'aise à ce moment-là.
Allez, pour le plaisir, on réécoute Fabrice Balédan qui commentait cette finale pour RTL.
Yannick Noah qui se concentre très longuement avant de servir, qui fait rebondir la balle, qui va servir maintenant. La première balle de Noah est bonne, retour de Wilander, elle est faite, il a gagné ! Yannick a gagné ! Retour d'or de Mats Wilander, Yannick Noah qui s'est jeté à genoux sur le court.
Cette image, effectivement, de Noah à genoux sur le court, qui lève les bras en V comme victoire, qui se retourne, salue Wilander, enjambe le filet et tombe dans les bras de son papa.
Non, je vous arrête. Il salue Wilander, et là, c'est le moment où je suis un petit peu sur la réserve, parce que Vilander est un très bon copain, un seigneur sur le court. Et Yannick est tellement heureux de fêter ça avec sa famille, et spécialement avec Zach, qu'il en oublie presque Vilander, il lui tend deux doigts. Il le regarde à peine, enjambe le filet et va jeter dans le bras du père. Et Vilander est un peu interdit. Et là, je me dis, zut, il aurait pu accorder un petit peu plus d'estime à son adversaire. Et
Jean Couvercel, il en parle d'ailleurs dans votre magazine.
Oui, parce que c'est un moment de folie, donc on peut bien sûr comprendre que certaines choses lui échappent, parce que d'abord, en plus, il voit son père qui vient de sauter de la loge, donc il ne peut pas faire autrement que tout de suite foncer vers lui. Alors évidemment, il a regretté, il l'a écrit dans Tennis Magazine longtemps après, les trois manques qu'il a eus, c'est notamment vis-à-vis de Vilander, ne pas lui avoir serré la main comme il aurait dû le faire, il aurait pu le faire, d'autant plus qu'il s'entendait très bien, effectivement. Ouais. En plus d'avoir écarté un petit peu brutalement un copain qui était venu se jeter sur lui pour l'embrasser,
ça,
etc.
C'est normal.
Et ensuite, troisième chose, de ne pas avoir serré la main de l'arbitre, Jacques Dorfman, arbitre historique de Roland-Garros, et qui lui après lui rappelait de temps en temps que c'était bon. Et
il a regretté ça officiellement. Pas serré la main de Jacques.
Voilà, mais enfin, en même temps, on peut tout comprendre parce que c'est un moment tellement unique que certaines choses peuvent échapper.
Une autre vision du court à ce moment-là, celle de son cousin, justement, Christophe Guibaud, qui est dans la tribune des joueurs, donc à côté de la tribune présidentielle.
Ça, vu d'en haut, c'est un énorme bazar. Moi, je me rappelle, je me dis, mais comment ça se fait que les gens rentrent sur le court? Je ne pensais pas que les gens au tennis pouvaient rentrer. Et là, je regarde tout d'un coup, je vois qu'il y avait du monde partout. Et donc, en fait, quand Yannick passe le filet, là, juste devant nous, donc moi, il est de dos, parce qu'il gagne face à nous, il est de dos. Et déjà, ça court dans tous les sens, et on voit Zach, mais au moment où il l'embrasse, il y a déjà tellement de monde. Alors, autant la télé, quand tu revois les images, ça paraît très clair, c'est des gros plans. Mais nous, d'ici, c'était petit, on avait du mal à appréhender ce qui se passait.
Comme un symbole, c'est Marcel Bernard, dernier vainqueur de Roland-Garros, 37 ans avant, en 1946, qui lui remet le trophée. C'est symbolique, ça aussi.
Oui, parce qu'on peut difficilement faire autrement, parce que Marcel, d'abord, est un magnifique joueur qui a gagné à Roland, mais comme on attend depuis pas mal de temps que ça se passe, autant faire remettre la coupe par le dernier vainqueur, puisqu'on en a... Il aurait pu n'y avoir que les mousquetaires qui étaient là, Borotra était là, Henri était là, enfin bon, mais ça aurait encore remis les choses 15 ans avant. Ça faisait quand même très long.
Mais Marcel, qui avait gagné donc à la surprise générale, lui, oui, en 1946, à l'époque, le gagnant du tournoi montait des marches pour aller dans la tribune présidentielle, pour recevoir la coupe. C'est pas aujourd'hui, c'est l'inverse.
C'est sur le court.
À l'époque, voilà, donc il y a un tapis rouge et que Yannick a monté pour aller vers, vers Philippe Chatrier, bien évidemment, qui l'a enlacé parce que c'était un moment unique pour Philippe, qui tenait tellement à voir un joueur français gagner Roland-Garros, et puis la Coupe Davis quelques années plus tard. Et pour Marcel Bernard, qui avait été président de la fédération, d'ailleurs, juste avant Philippe. Et c'était aussi un moment extraordinaire.
Alors là, pour préciser combien les choses étaient à la fois excessives et rentrées, ils montent donc le petit escalier vers la tribune présidentielle, et nous sommes la première loge qu'ils croisent. Et là, on est là avec Agel et Robert Laurence, dit « qu'est-ce qu'on fait ? On lui saute dans les bras ?» Mais on sent que c'est derrière, dans la tribune présidentielle, avec Marcel Bernard, qui va lui remettre la coupe, que ça va se passer. Et là, Yann, il passe à côté de nous, il sent qu'on ne va pas être exubérant, puis il nous fait son fameux petit cri, tout le monde ne le connaît pas, mais quand il y avait des choses un peu particulières, il nous fait pour passer à côté. Et donc, il va voir Philippe et Marcel, et nous, on reste dans notre loge.
Et Agel Auer m'a raconté qu'à ce moment-là aussi, il lui dit quand même « on a gagné », et le « on » résume complètement qui est Noah aussi. Et
ça résume complètement qui est Noah, parce que, mais ça s'adressait, et ça, c'est très compréhensible, tout à fait à Agel et à lui, quoi. Alors, il nous... Comme on était dans le même coin, on était englobés, mais le « on a gagné », c'est... j'ai pas gagné, quoi. Si t'avais pas été là, ça ne se serait pas fait pareil.
Ben voilà, Jean Couvercel me montre le journal, le Tennis Magazine de cette victoire avec le « On a gagné », effectivement.
Oui, c'était le titre qu'on avait choisi, puisqu'effectivement, c'est ce qu'il a dit. Il a d'abord dit ça à Zach quand il a tombé dans ses bras, puis après, il a associé tout le monde, parce qu'effectivement, c'était une victoire de tout le tennis français et de tous ceux qui avaient accompagné Yannick Agel en particulier, Jean-Paul, mais évidemment ses amis, ses proches, sa famille et les autres joueurs.
La coupe des mousquetaires dans les bras, Noah prend d'ailleurs le micro pour un discours.
Je dois dire qu'aujourd'hui, je suis doublement content d'abord parce que j'ai gagné, mais en plus, parce que j'ai gagné pas tout seul, j'ai gagné pour ma famille, pour mes amis, pour toute la famille, la fédération, et vous tous, le public, je pense que c'est notre victoire à tous.
Jean Couvercel, vous avez une petite anecdote plus personnelle sur cette finale de Roland-Garros, parce que votre femme amène aussi un trophée, j'ai envie de dire, à Noah après cette finale.
Oui, alors c'est pas pendant la finale, c'est après. On a la chance d'habiter tout près du stade Roland-Garros, et après la victoire de Yannick, Béatrice, mon épouse, lui a apporté quelque chose sur le court, parce que Yannick est resté sur le court très longtemps avec beaucoup de monde qui l'entourait. C'était quasiment interminable après la cérémonie, bien évidemment. Et donc, elle a eu le temps d'aller chercher un gâteau au chocolat, qui était le gâteau préféré que Yannick avait été venu à la maison plusieurs fois et qu'il avait adoré. Et donc, elle s'est dit, tiens, je vais lui apporter ce gâteau qu'elle avait préparé. Et c'était, si on peut dire, un trophée très tout à fait amical et à goûter après. Il a apprécié le geste, évidemment, je crois. Peut-être un peu moins quand même que la coupe des mousquetaires. Mais ça lui a fait plaisir parce que c'était un truc très personnel, effectivement.
Quand vous le retrouvez dans les vestiaires, Jean-Paul Loth, il est comment ?
Je ne me rappelle pas.
Ouais.
Franchement, il y a eu cette énorme foule sur le court. Alors, j'ai entendu dire qu'on était surpris qu'on n'accepte pas, mais c'était normal parce que c'était bon enfant. Ça se passait bien, il n'y avait pas de bousculade. Et dans les vestiaires, il se passe ce qui généralement se passe dans les vestiaires, c'est-à-dire ou beaucoup d'exubérance. Ça n'a pas été le cas. Ou un peu de retenue de la part des uns et des autres. Et puis subitement, le joueur, en l'occurrence Yann, qui commence à se rendre compte vraiment après toute l'effervescence de ce qui vient de se produire, et mes souvenirs du vestiaire sont relativement limités.
Il a la traditionnelle conférence de presse, Jean Couvercel, d'après match. Vous vous en souvenez, vous, de cette conférence ?
Non, pas pour vous dire. Personnellement, j'étais déjà parti.
Pour boucler le magazine.
Donc, des collaborateurs étaient restés, mais je n'étais pas personnellement à la conférence.
Bon, on va écouter un extrait de cette conférence de presse. Il explique justement comment il se sent.
Oh, c'est inexplicable. C'est comme une décharge d'électricité. C'est très fort, c'est très intense. Et tout ce qu'on a investi dans le métier, je veux dire, qui se retrouve récompensé en 15 secondes, c'est fantastique. C'est un peu notre victoire à tous, je veux dire, je n'ai pas gagné tout seul et j'ai gagné parce que j'ai été aidé par des gens qui étaient proches de moi. Je pense que c'est bien sûr ma victoire, mais c'est aussi la leur parce qu'ils font partie de cette victoire. Ils m'ont aidé, ils ont travaillé avec moi, et ils ont souffert avec moi. Mon père, à chaque Roland-Garros, à chaque grande occasion, repart au Cameroun avec plein de cheveux blancs et là, j'espère que ça ira.
On sent dans sa voix... Quand même, on sait qu'il ne parle jamais très très fort, Yann, mais on sent dans sa voix toute l'émotion aussi de cette finale et presque une fatigue.
Oui, forcément, il y a beaucoup donné, on se libère de pas mal de choses, pas seulement sur le plan physique, mais sur le plan nerveux, mais ce qu'on peut retenir de cette interview-là, c'est la beauté de la pensée, parce que on aimerait bien qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de joueurs qui, de temps en temps, soient reconnaissants aux gens qui s'occupent d'eux. Ça n'arrive plus très souvent.
On est plus dans le jeu.
Voilà. Et Yannick, pendant un bon moment, a rappelé à tout le monde, et c'était très chouette, qu'il n'y était pas arrivé tout seul, qu'il y avait des gens qui étaient autour de lui, et sur la partie technique, physique, etc., mais aussi mentale, en proche famille. Et c'était important parce que vous assistez tellement souvent à une prise de résultats individualisés par un joueur, alors qu'il y a plein de joueurs. Aujourd'hui, vous avez le cas là, avec le petit Alcaraz qui est en symbiose avec Ferrero, et c'est joli. Parce que bien sûr qu'il ne serait pas là si son coach ne s'en occupait pas de cette façon.
Noah n'oublie pas grand monde d'ailleurs ce jour-là, même ceux que l'on voit moins. Écoutez l'anecdote de Patrice Agelower.
Au moment où je quitte Roland-Garros et je me retrouve dans le parking pour prendre ma voiture, qui je vois ? Yannick Noah qui était là avec les personnes de l'entretien. les personnes de l'entretien qui étaient les gens avec qui Yannick avait quasiment grandi, parce que Yannick avait logé ici quand il avait 17, 18 ans. Et là, il y avait Mabrouk qui était le responsable des vestiaires et tous ces gars-là. Yannick avait récupéré une bouteille de champagne et au milieu du parking, avec tous ces gars-là, eh bien, voilà, ils sablaient le champagne et ils étaient tous, mais tellement heureux. Et Yannick a passé, mais une demi-heure avec eux, vraiment, et c'était tellement fou de voir ça, qu'après tous les honneurs qu'il avait pu avoir, mais il était avec ces gens-là. Mais ça, ben ça c'est Yannick et ça, c'est vraiment bien dans ma tête.
Ouais, ça, c'est vraiment Yannick.
Oui, oui, je le partage toujours avec tous ceux qu'il aime, qu'il apprécie, parce qu'il est... Yannick
c'était sa deuxième maison aussi.
Il est une star, il n'oublie rien, il n'oublie personne pour ça.
C'était sa deuxième maison.
Il a vécu là quand même, hein, ouais. entre Nice, le tennis études que j'ai créé pour lui d'ailleurs, et ensuite les chambres que j'ai fait aménager à Roland-Garros, il a vécu là avec les ouvriers du stade, le personnel du stade, et comme il est partageur d'une part, et qu'il n'oublie pas les petites gens, Yannick. Mmh. C'est très important quand on a une image de vedette et de star, généralement les gens s'oublient un petit peu et ne s'adressent qu'aux stars ou à leurs égaux en niveau de reconnaissance. Lui s'adressait aussi à ceux qui faisaient les petits boulots.
Il y avait Mabrouk, il y avait toutes ces personnes qui préparaient les cours, il y avait la porte 13 aussi.
Mais tout le personnel Roland-Garros qui œuvre du début de l'année à la fin de l'année pour que les cours soient beaux, pour que le stade soit fleuri, tous ces gens-là, ils les voyaient tous les jours. Et quand il les voit ensuite dans le parking, qu'il a sa bouteille de champagne, il n'a pas une bouteille de champagne pour la boire dans sa voiture. Hein. Il l'a en main parce qu'il sait qu'il va offrir un pot à ses potes.
Alors après, tout se passe à Nainville dans sa maison. Jean-Paul, vous dites que vous n'avez aucun souvenir de cette soirée.
Aucun. J'ai eu plusieurs fois des appels de la part de journalistes amis qui m'ont dit « Est-ce que tu peux nous raconter cette soirée ?» J'ai dit « Écoutez, je suis désolé, je n'y étais pas. » Finalement, il y en a un, Philippe Boin, qui a
journaliste
fait des recherches
à l'équipe,
qui me dit « Mais il y a des photos où on te précipite dans la piscine. » Et je conteste encore l'histoire, j'ai dit « C'est pas la piscine de la ville, je ne me vois pas avoir été précipité. » Enfin bref, je n'ai aucun souvenir. Alors, ce qui m'étonne tout de même, c'est que je n'étais pas très buveur. Je ne suis jamais de ma vie allé à l'ébriété. Et si j'y avais été... Peut-être, je pourrais considérer que j'ai tout oublié, mais si j'avais été ce soir-là, ce qui n'est pas complètement exclu, en état d'ébriété pour avoir tout oublié, allez, on passe.
Patrice Agelower a un souvenir de vous dans cette soirée, mais lui aussi est rentré avec sa femme qui l'a plutôt conduite plutôt que l'inverse. À Nainville, il y avait la famille, les amis, les habitants du village et le groupe Téléphone. C'était ses nouveaux copains.
Oui.
Louis Bertignac nous raconte.
Il gagne, on est tous contents évidemment, parce que c'est rare qu'un Français gagne. Et en plus, c'est un pote qui gagne, donc on est fou de joie. Et je sais plus, je pense qu'à la fin du match, on s'est retrouvés. Il nous a dit, bon, on fait la fête ce soir, ramenez-vous. On était là, tout le groupe, on était tous là. On avait été chacun dans son coin, on s'est retrouvés là-bas. Et c'était la fête, je sais qu'on a joué des morceaux, Yannick est venu chanter.
Ça a duré toute la nuit, vous avez joué longtemps
ou... Eh ben ça allait, ça venait, on allait boire un coup, on revenait quoi. Non, ça a duré jusqu'à tôt le matin, ouais. Moi je m'en souviens, mais bon, je me souviens pas tellement des détails.
C'est bizarre, hein, tout
personne
le monde
ne se souvient.
Il y a une amnésie collective sur cette soirée. Christophe Guibaud, son cousin, n'était pas de la fête à Nainville, mais il nous raconte.
Alors moi, je n'étais pas de la fête à Nainville le soir. C'est une histoire de logistique, j'y suis pas allé.
C'est vrai ?
Ouais, ouais.
Il y a un regret ?
Eh non, mais en fait, après, le truc, il t'appartient plus là-bas, quoi. C'est fini, quoi. Il est dans les bras de tout le monde, c'est le bazar total. Non, j'étais pas là-bas.
Il y a eu un moment plus intime, justement, pour fêter en famille ?
Alors, c'est pas fêter, mais je me rappelle un moment très, très étrange. C'est quelques jours après, je ne saurais pas le dire, le temps passe. C'est Yannick regardant sa finale sur une cassette VHS. Il voulait qu'on regarde, il y avait ses copains, qu'on regarde ça en silence. Et il a regardé sa finale contre Vilander. Et ce qui m'a frappé, qui m'a le plus étonné, c'est qu'il se rappelle évidemment de tous les points. Et il commentait, il disait là je vais lui mettre là, là je mets la balle ici, là je fais un revers, ah un revers pourri, là il va. Et il se rappelait de tout. Et il a revu son match quelques jours après.
Ça devait être un moment assez particulier ça quand même.
Ouais, alors évidemment quand on est comme ça dans le truc, on se rend pas compte, mais en y réfléchissant après, c'est incroyable quand même. J'aurais bien aimé qu'il y ait une caméra à ce moment-là, mais il n'y avait personne.
Et oui, on n'était pas à l'heure des réseaux sociaux. Ce moment d'intimité, Jean Couvercel, ne doit pas vous surprendre finalement, car vous-même, vous n'étiez pas un invité. Au soir de la victoire, vous boucliez le journal.
Exactement. Oui, toute la nuit blanche, c'était pas pour faire la fête. Enfin, c'était pour faire la fête du journal et de la victoire de Yannick. Mais on travaillait consciencieusement, évidemment.
Et ce numéro d'anthologie, j'ai envie de dire, de Tennis Magazine, il est sorti dès le lundi.
Oui, on l'a livré dès le lundi, oui.
Et le mardi, il était sur le plateau de TF1 avec.
Oui, Yves Mourouzi, on lui avait fait porter le magazine et Yannick était l'invité du journal de 13h de Yves Mourouzi. Et Yves lui a donc donné le magazine que Yannick n'avait pas encore vu, évidemment. Il a feuilleté, il a découvert la couverture à ce moment-là, parce que le lundi avait été difficile pour Yannick à la suite de cette nuit. Donc il n'était pas vraiment, il n'avait pas vraiment émergé encore. Et je dirais sa première reprise de contact avec la vie normale, entre guillemets, c'était sur le plateau de Yves Mourouzi et à TF1.
Il faut se remettre dans l'époque de la presse. Vous travaillez dans l'urgence, vous envoyez même un photographe là-bas. On n'est pas à l'heure du numérique. Serge Philippot prend deux photos et revient vite fait à la rédaction
oui,
pour boucler.
À l'époque, vous avez raison, parce qu'il n'y avait pas le numérique, donc il fallait développer les photos. On avait fait ouvrir un labo en pleine nuit pour pouvoir avoir les Kodachrome, comme on disait à l'époque, les Ektas. Et choisir ensuite les photos et les mettre in extremis en temps voulu, puisque ça c'était des photos qui avaient été prises vers minuit, 1h du matin. Et nous on a fini le bouclage vers les 5h du matin.
Ah, quel travail sur cette fête de Nainville, il en a reparlé des années après. Finalement il n'en garde pas un très bon souvenir, Noah.
Non, je peux vous lire ce qu'il a écrit dans Tennis Magazine pour les 20 ans du magazine. Il avait témoigné, il a dit « La soirée dans cette maison après la victoire, c'était déjà too much ». Trop de gens chez moi que je ne connaissais pas. Le lendemain, il y avait de la boue partout, c'était triste. Je me sentais un peu violé ce matin-là. Je ne me suis d'ailleurs pas senti bien de toute la semaine.
C'est incroyable cette phrase, quand Jean me l'a fait découvrir ou redécouvrir, parce que je ne me souvenais pas du tout de ce témoignage. C'est assez fort finalement.
Oui, c'est ce qu'on disait un peu en début d'émission, c'est que Yannick n'était pas fan des excès non plus. Ou alors, quand il en commettait, c'était très personnel, il n'y avait pas 25 personnes forcément autour de lui. Et le contre-coup, il l'a d'ailleurs vécu pendant un certain temps. Par la suite, il n'y a pas que la soirée qui lui a semblé excessive. Tout lui a semblé excessif par la suite, puisqu'il y a eu un peu ce burn-out. Mais ça ne m'étonne pas du tout. Je ne me rappelais pas qu'il avait dit ça, ce que Jean vient de nous rappeler. Mais oui, quand vous avez des fêtes de ce type-là, après un événement aussi considérable que Roland-Garros, vous dites à quoi ça sert tout ça, quoi. J'ai gagné mon tournoi, bon, maintenant il y a la suite.
Oui, et puis c'était chez lui, donc oui, il avait ce sentiment d'avoir, comme il dit, violé, parce que c'était son intimité. Et il y avait il y a eu beaucoup de monde qui est venu, même des gens qu'il ne connaissait pas.
Mais pourtant, peut-être qu'au départ, comme il est tellement généreux, c'est lui qui avait convoqué un peu tous ces gens chez lui, et avec un peu de recul, voilà, quoi. Mais c'était dans l'euphorie de la victoire.
Ça s'est passé bizarrement, tout ça, parce que rien n'avait été prévu.
Oui.
Et Yann a dû dire à deux ou trois de ses copains,
passe à la maison,
y compris à Moulineau, dit aux copains de venir, lequel Moulineau a dû dire comme ça, mais venez tous chez Yannick à Nainville, on va faire la fête. Alors il y a pas mal de gens qui apparemment se sont accrochés à ça.
C'était porte ouverte, oui.
Ben ouais. Oui, pas moi, je n'étais pas.
Avant de nous quitter, Jean-Paul Lotte et Jean Couvercel, si vous ne deviez retenir qu'une image de ce 5 juin 83, laquelle serait-elle, Jean Couvercel?
Moi, c'est quand il tombe à genoux sur le court et qu'il se prend, qu'il lève les bras, parce que c'est, on a tellement suivi jusque-là Yannick, et après évidemment aussi, mais jusque-là il arrive à ce nirvana. C'est un moment unique, quoi. Ça dure quelques secondes pour lui, mais pour nous ça reste la preuve. On en parle encore éternelle.
Jean-Paul Lotte.
Oui, et dans la suite du temps, c'est quand il saute dans les bras de Zach. Ça, c'est une image avec AGL. On s'est regardé, on dit qu'est-ce que c'est beau. Donc voilà, forcément, c'est ce qui me revient.
Merci beaucoup Jean-Paul Lotte, Jean Couvercel, de nous avoir fait revivre ce 5 juin 1983. Le triomphe de Yannick Noah à Roland-Garros est également à écouter à travers les mots de son entraîneur à l'époque. On en a parlé, Patrice Agelower, dans un entretien exclusif que vous pouvez retrouver dans notre offre de podcast. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce focus que j'ai eu à le préparer, à le présenter. N'hésitez pas à le commenter, à le noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.